Le journal, Sébastien Legeny, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, les évêques de France réunis pendant 3 jours autour des violences sexuelles au sein de l'Église, avec une question qui traversera tous les débats. Comment matérialiser la responsabilité de l'Église catholique? Certaines associations réclament la création d'un mémorial et pourquoi pas à Lourdes afin de rendre hommage aux victimes. Dans l'actualité Covid, le déploiement à partir d'aujourd'hui des premiers tests salivaires pour faciliter les prélèvements, exemple dans la ville de Saint-Étienne. À suivre aussi où en est le Irakl, ce mouvement de contestation populaire algérien débuté il y a 2 ans aujourd'hui. L'épilogue d'une vieille affaire de concurrence déloyale dans les télécoms. SFR réclame 3 milliards d'euros à Orange. Et pour finir, le carton du ski de fond avec la saison hivernale exceptionnelle, une petite station en plein cœur de la Haute-Maurienne.
Et au micro de Léa Salamé dans 20 minutes à 7h50, c'est aujourd'hui, je vous le rappelle, le directeur général de l'APHP, Martin Hirsch.
France Inter.
Assemblée générale exceptionnelle, Sébastien, à partir d'aujourd'hui, des évêques de France sur la question de la pédophilie.
3 jours en visioconférence pour s'interroger sur les dossiers noirs de l'institution religieuse. Comment prendre en charge les coupables? Comment indemniser les victimes? Qui est responsable juridiquement de ces abus, de ces viols? Les sujets sont multiples et parmi les questions, celle également d'un mémorial pour les victimes de ces violences sexuelles. Reste à savoir quelle forme pourrait prendre une telle initiative. Les précisions de notre spécialiste religion, Julie Pietri.
Pour l'instant, personne ne sait vraiment à quoi ressemblera ce mémorial, mais il sera bien physique et pas virtuel, et sa mission est claire, rendre hommage aux victimes et rappeler toujours à l'Église catholique ses dérives. Olivier Savignac, agressé par un prêtre en 93, aujourd'hui président d'association de victimes, discutera de la question aux côtés des évêques cette semaine.
Un tel mémorial serait une présence visible et physique du traumatisme. Donc ce serait en même temps un équipement type muséographique avec des témoignages audio, vidéo, mais pas simplement un centre de formation, un centre de ressources. Donc en même temps un équipement et en même temps un monument.
Lourdes pourrait être un lieu propice pour un tel mémorial avec ses 6 millions de pèlerins annuels. C'est l'une des pistes, détaille Vincent Némon, porte-parole de la Conférence des évêques de France.
Peut-être Lourdes, mais peut-être pas. Y a-t-il un lieu ou y a-t-il un lieu par diocèse? Enfin, vous voyez, c'est des questions qui aujourd'hui ne sont pas résolues. C'est vrai que quand on regarde les mémoriaux, on voit bien la volonté à la fois de faire mémoire, mais aussi d'influencer les personnes qui viennent afin qu'elles soient vigilantes pour que les choses ne se reproduisent pas.
Localement, des initiatives naissent déjà. Le diocèse de Luçon a par exemple annoncé la pose d'une plaque commémorative sur la cathédrale en hommage aux 65 victimes recensées pour l'instant par l'évêché en Vendée depuis les années 40.
Julie Pietri, le rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église lancée en novembre 2018 doit présenter une première ébauche de son travail la semaine prochaine. À ce jour, la commission a recueilli 6500 témoignages.
Il est 7h33, c'est en fin de matinée, Sébastien, que l'on devrait connaître la décision du gouvernement concernant la ville de Nice.
La 5e ville de France, chef-lieu des Alpes-Maritimes, confrontée à un nombre de cas 3 fois supérieur au reste du pays. Depuis 48 heures, on évoque l'idée d'un confinement localisé à Nice et dans les autres localités de bord de mer. Et puis c'est aussi aujourd'hui que les tests salivaires doivent commencer à être déployés sur tout le territoire français, comme à Saint-Étienne, qui lance une deuxième grande campagne de dépistage dans toute la ville. La première campagne en janvier avait connu un succès mitigé. Seuls 6% des Stéphanois s'étaient déplacés. Alors les tests salivaires plus simples vont-ils changer la donne? Réponse avec Lise Dussault.
Ouvrir la bouche, un petit prélèvement de salive et c'est tout. À Saint-Étienne, existent les écouvillons cette semaine. Les habitants expérimentent les tests salivaires. Tous seront analysés 2 fois. Une première avec un résultat en 15 minutes, puis une seconde en laboratoire avec la technique PCR. La directrice départementale de l'ARS, Nadège Grataloup, espère ainsi lever des réticences.
On s'inscrit dans cette logique de proposer des tests moins invasifs, du coup moins désagréables, si je puis dire, à la population. Donc on espère avoir un peu plus d'adhésion sur ce type de test.
Objectif affiché, dépister environ 10 000 personnes, au moins autant qu'en janvier. Pour y parvenir, un nouveau dispositif est mis en place. Un bus qui va sillonner la ville, explique Patrick Michaud. Il est adjoint à la mairie en charge de la santé.
Un bus dépistage pour inciter les gens à venir, c'est-à-dire qu'on ne va pas demander aux gens de venir, mais c'est le bus qui ira donc dans les différents quartiers pour inciter les gens donc à venir se faire dépister.
Pour l'occasion, 12 autres centres de dépistage sont déployés, auxquels il faut cette fois ajouter l'université, les 6 collèges publics de la ville et le siège du groupe Casino, grosse entreprise de la métropole. Au total, près de 30 000 tests ont été commandés.
Lise Dussault de France Bleu, Saint-Étienne-Loire. C'est aujourd'hui la rentrée des classes dans la zone A, Bordeaux, Clermont, Dijon ou Lyon, par exemple, fin des vacances d'hiver pour ces écoliers, mais aussi pour les salariés de ces régions. Pour autant, ça ne veut pas forcément dire un retour au bureau. Les autorités, on le sait, recommandent le télétravail. Alors, pour humaniser ce retour solitaire derrière son ordinateur, des entrepreneurs français se sont lancés ces derniers mois dans la création de bureaux virtuels. Une ambiance de boulot, mais chacun chez soi, Kevin Dufraîche.
Ça ressemble à un jeu tout droit sorti d'une console des années 90, Work Adventure, développé par la start-up The Coding Machine. Depuis chez lui, avec son clavier, chaque salarié peut promener son petit personnage sur la carte du bureau virtuel de l'entreprise. Dès qu'il est à proximité d'un collègue, caméra et micro s'activent.
Salut Thomas, tu vas bien ?
Ouais, ça va.
Chacun a son espace personnel, il y a des salles de réunion et même une cuisine et un coin détente. La plateforme permet de faire des visios, d'échanger des documents. Mais en quoi alors est-ce différent des outils qui existent déjà ? Thomas Carly est chef de projet sur Work Adventure.
On a des réunions de 2 heures, on les fait sur cet outil. Sauf qu'après, on peut se retrouver dans la petite salle de cuisine et puis discuter de choses et d'autres. Le virtuel nous sert à rétablir ce lien social, pouvoir se dire bonjour le matin, pouvoir parler de choses qui ne sont pas du professionnel.
Déjà plusieurs centaines d'entreprises utilisent Work Adventure, succès fulgurant rencontré également par Florent Crivello. Ce Français basé à San Francisco a lui aussi créé une plateforme de bureau virtuel baptisée Teamflow, utilisée aujourd'hui partout dans le monde, autant par des PME que par de grandes entreprises comme Disney ou Netflix.
Quand on est sorti le 13 janvier, on a vu les inscriptions vraiment exploser. Notre serveur n'arrivait pas à suivre. Et c'est la raison pour laquelle on a ajouté une liste d'attente. Là, aujourd'hui, on a 5000 entreprises sur la liste d'attente.
Selon les plateformes, un bureau virtuel coûte à une entreprise entre 5 et 10 euros par salarié et par mois.
C'était il y a 2 ans, la population algérienne descendait massivement dans la rue. Une contestation contre le pouvoir en place, entamée le 22 février 2019. On appelle ce mouvement le Irak. 2 ans après, où en est le mouvement ? Abdelaziz Bouteflika est parti, mais le nouveau président Abdelmajid Tebboune n'a pas cessé les arrestations, les procès, les intimidations. La semaine dernière, il a annoncé une 60aine de libérations, promis de nouvelles législatives. Hier, remaniement ministériel, mais sans grand changement. Bref, l'État algérien oscille entre main tendue et tactique politicienne pour éviter, Claude Guibal, toute nouvelle flambée de protestations.
Libération de prisonniers, élections anticipées, tout faire pour que le Irak, la colère des Algériens, ne se remette à flamber. 2 ans après le début de cette mobilisation inédite, le mouvement semblait s'être endormi avec l'épidémie de Covid et les conditions sanitaires qui y ont mis un frein et cassé l'élan de la contestation. Un espoir qui pourtant ne s'était pas éteint, explique le politologue Kader Abderrahim.
Ce qui est important, c'est un peu comme ce qui s'est passé il y a 10 ans un peu partout dans le monde arabe, c'est-à-dire cette réappropriation citoyenne. Maintenant, il faut aller plus loin et ça suppose que ce Hirak doit s'organiser pour représenter éventuellement une alternative au régime.
Or, en maintenant des figures du Irak en prison, le pouvoir algérien prenait le risque d'en faire des symboles, précisément fédérateurs. En les libérant, il fait le pari que la tension se relâche avant cet anniversaire. L'annonce d'élections anticipées prend aussi de court le mouvement qui n'a pas eu jusqu'à présent le temps de se structurer ni de proposer un projet alternatif. Un vide qui a permis à Abdelmajid Tebboune, ancien proche de Bouteflika, d'être élu sans avoir face à lui une opposition politique suffisamment soudée pour exiger de réelles réformes, comme le réclame sans relâche une rue algérienne en quête de visage pour incarner sa lutte.
Et Claude Guibal, en bref, encore à l'étranger, nouvelle manifestation en Birmanie aujourd'hui contre la junte militaire. Hier, des dizaines de milliers de personnes rassemblées en hommage à une jeune manifestante, une épicière de 20 ans morte d'une balle dans la tête. Nous serons sur place dans le journal de 8 heures. C'est un épisode de la guerre entre opérateurs téléphoniques que l'on avait un peu oublié. SFR qui accuse Orange depuis 15 ans de concurrence déloyale. Un abus de position dominante pour lequel SFR réclame 3 milliards d'euros de dédommagement à l'opérateur historique. Le tribunal de commerce doit rendre enfin son jugement aujourd'hui, Delphine Simon.
Orange aurait mis trop de temps pour livrer les informations techniques nécessaires à ses concurrents. Trop de temps aussi pour brancher le réseau SFR dans des centres commerciaux ou des zones industrielles, voire aurait coupé certains de ses réseaux momentanément. L'opérateur historique détient ce que les professionnels appellent la boucle locale de cuivre, le dernier maillon du réseau jusqu'à l'abonné, ce qui lui permet de mieux capter les clients. Selon la firme de Patrick Drahi, la part de marché de SFR sur les entreprises en aurait souffert. Elle est aujourd'hui trois fois plus faible que pour le grand public, ce qui a poussé SFR à puiser dans sa trésorerie et à s'endetter. Du côté d'Orange, on relève que cela n'a pas empêché le concurrent de participer à plus de 250 appels d'offres en 10 ans. Sommé de remettre à plat son système d'information, l'opérateur historique conteste par ailleurs détenir 75% de parts sur le marché des entreprises, comme l'affirme son rival. Orange risque jusqu'à 3 milliards d'euros pour le préjudice, 10% de sa capitalisation boursière.
Delphine Simon, un mot de sport avec le PSG, un PSG fantomatique hier soir. 5 jours après son exploit en Ligue des Champions à Barcelone, les Parisiens battus 2-0 au Parc des Princes par Monaco en Ligue 1.
Et on termine, Sébastien, avec un planté de bâton façon ski de fond.
Oui, c'est la tendance de ces vacances d'hiver, Nicolas. Faute de remonter, les Français se jettent sur le ski de fond. Exemple à Bessan, en Haute-Maurienne, le village de 300 habitants. Léo Rosé vit une saison historique.
On essaye de trouver son ski d'appui.
Perrine, la monitrice, guide des débutants en ski de fond.
C'est différent.
Guillaume redécouvre le ski après des années d'alpin.
C'est très sympa, c'est une autre façon de découvrir la neige. C'est assez physique, mais bon, le prof est bon. J'ai découvert le skating et j'ai vraiment envie de m'y mettre.
L'école de ski atteint des records en ce moment. Laurent Vidal, le directeur de la station.
On a jusqu'à 15 cours collectifs tous les matins et c'est exceptionnel à Bessan. On est à peu près à des effectifs doubles par rapport aux années précédentes.
Le chiffre d'affaires du domaine skiable est déjà équivalent à celui de la fin de la saison l'année dernière et le taux d'occupation est de plus de 90% sur ces vacances. Une saison historique dans un contexte très particulier pour le maire Jérémy Trac.
On est heureux d'accueillir des nouveaux vacanciers qu'on espère revoir à l'avenir. Et toutefois, on reste solidaire avec nos voisins puisqu'on sait que l'activité globale de notre territoire de Haute-Maurienne vanoise est importante, que pour que Bessan soit durablement une destination touristique de qualité, il faut aussi que les stations voisines tourne bien. Il y a un certain nombre de services qu'on mutualise avec les stations voisines.
Bessan attend donc aussi la réouverture des remontées mécaniques, mais avec beaucoup moins d'impatience que ses voisins alpins.
Voilà, la passion ski de fond, c'était avec Léo Rosé de France Bleu, Pays de Savoie.
Merci Sébastien Legénie. Il est 7h42.
France Inter.
L'édito politique toute la semaine avec vous, Yael Gauz. Encore un long week-end polémique sur l'islamo-gauchisme universitaire.
Oui, Nicolas, un dimanche sur CNews peut en cacher un autre dans le JDD. La même ministre, Frédérique Vidal, en charge de l'enseignement supérieur, persiste et signe. Il y aura bien une enquête, une étude, pour recenser les atteintes à la laïcité dans les facs, pour débusquer les scientifiques qui confondent recherche et militantisme. Pourtant, entre les deux dimanches, on avait compris que le débat était clos. Vu l'avalanche de réactions hostiles chez les présidents d'université et au CNRS, même Emmanuel Macron fait savoir qu'il est attaché à l'indépendance des enseignants-chercheurs. Et bouquet final samedi, la pétition signée par 600 universitaires dans le monde pour réclamer sa démission. D'où la stupeur en retrouvant Frédérique Vidal hier à la une du JDD. A-t-on affaire à une tête brûlée de la politique, ministre fragilisée et frondeuse, ou tout cela est-il subtilement téléguidé? Ils sont nombreux en Macronie à s'être posé la question, à s'être appelés hier pour essayer de comprendre, et ils n'ont pas compris. Car cette interview, m'a-t-on expliqué, était une initiative personnel, validé par Matignon, mais pour aider à tourner la page du malentendu, à remettre la précarité étudiante au cœur des priorités. C'est raté, et ça provoque des dommages collatéraux au sein de l'exécutif. D'un côté, Gérald Darmanin saluant le courage de sa collègue. De l'autre, Gabriel Attal passablement agacé. Le porte-parole du gouvernement trouve hallucinante la place prise par ce débat.
Et pourquoi, Yael, la ministre tient-elle tellement à ce sujet?
Parce que des enseignants lui écrivent et lui demandent d'intervenir, menacés dans leur liberté de faire cours. Qui? Quand? Combien l'islamo-gauchisme a-t-il pris le pouvoir dans les amphis? Même la ministre considère qu'il s'agit d'un fait très minoritaire. Fin 2019, Sylviane Agacinski puis François Hollande ont été empêchés de débattre à Bordeaux et à Lille. Dérive inadmissible. Est-ce pour autant l'enjeu numéro 1? On fêtera bientôt le premier anniversaire, si tant est que c'est une fête, du premier confinement. Combien d'étudiants ont aujourd'hui la possibilité d'aller étudier en présentiel plus d'une journée par semaine? Qui mangent correctement midi et soir? Combien de jeunes en détresse psychologique? C'est sur ce terrain-là qu'on attendait et qu'on attend toujours la ministre. Pendant 2 semaines, de Saclay à Nantes, Emmanuel Macron s'est déployé sur le thème de l'égalité des chances. Il s'agissait de parler d'ascenseur social en même temps que de séparatisme. La chorégraphie solitaire de Frédéric Vidal apparaît d'autant plus décalée, y compris dans le temps, car les députés ont déjà adopté le projet de loi renforçant les principes républicains. On a du mal à suivre. S'agit-il d'un marqueur de plus pour combattre une Marine Le Pen trop molle, trop floue? Parce qu'on dissout génération identitaire d'un côté, il faudrait de l'autre recenser les islamo-gauchistes pour tenir les deux bouts. Avec l'électron libre